Bonjour chacun, chacune. On voit des retours, certains qui reviennent, j'aperçois, des visiteurs, d'autres qui vont prendre quelques congés dont nous faisons partie avec Marie-Annick. Nous partirons une dizaine de jours après ce culte. Donc voilà, vous inquiétez pas, on sera pas là dimanche, mais tout va bien. Hein, allez voir l'Alsace. Un joli pays. On a eu un bon temps de louange. Je pensais à ce chant. J'écouterai ce que dit Dieu. Vraiment, ce chant est extraordinaire. Hein. C'est vraiment Dieu donne ses serviteurs. C'est superbe. Ce matin, comme je vous l'avais annoncé il y a 15 jours, je vous ai parlé de la consolation de toutes nos afflictions. Je pourrais n'en rien dire, puis vous dire, écoutez, ouvrez la parole de Dieu, suivez l'histoire de son peuple, et vous verrez que c'est vraiment celui qui console de toutes les afflictions. Mais je crois que, puisqu'il nous l'a donné, sa parole et l'esprit, comme Jean-Luc l'a rappelé, simplement lui demander, d'ailleurs je vais prier pour ça, que ce matin il nous accompagne dans ce temps, vraiment. Seigneur notre Dieu, je te prie, que vraiment tu m'aides. Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs, parce que c'est là qu'est la vraie consolation de tout ce qui peut arriver dans les vies. Alors ce matin, merci Seigneur, nous l'avons souligné, tu nous as laissé ta parole, elle est vivante, tu veux la révéler au cœur de tes enfants et au cœur de ceux aussi qui ne te connaissent pas pour l'instant. Seigneur, je te prie que ce matin, à travers quelques pensées de ta part, que je désire partager avec mes frères et sœurs, avec mes amis, Seigneur, cette parole puisse se déposer avec douceur dans les cœurs et sauver des âmes. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen. Donc, la dernière fois, je vais faire un petit rappel. Je vous proposais d'aborder ce sujet en considérant d'abord les afflictions qui surviennent à tout homme et toute femme, qu'il soit croyant ou non croyant. Nous avons abordé ça la dernière fois et aujourd'hui nous regarderons plus particulièrement pour les croyants nés de nouveau. Est-ce que dans le fond tout est réglé ou est-ce qu'il y a encore des afflictions et quelle consolation le Seigneur apporte ? Je voudrais reprendre la remarque préliminaire que je formulais il y a 15 jours. La question de la souffrance, elle est liée, il faut le dire d'entrée de jeu, à la chute qui a créé de grands désordres dans les relations entre les hommes. Et je le soulignais, c'est l'univers entier qui a été souillé, abîmé, déréglé par la chute. Et il est illusoire de vouloir recréer un monde parfait, de vouloir recréer l'Éden. Ce n'est pas là mon sujet, mais enfin, voilà. Il y a une illusion d'ailleurs qui se promène, y compris parfois au milieu des croyants, qu'on va restaurer l'Éden. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ceux-là sont promis pour l'instant à la destruction par le feu. On va poser les choses comme ça d'entrée de jeu. Mais déjà face à cette souffrance, le Dieu créateur, le Dieu d'éternité, j'allais dire, à un premier stade, ne fait pas de distinction. Et il fait lever le soleil sur les justes et sur les injustes. Il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Et il est bon. Il déverse sa bonté sur les bons et sur les méchants. Ça, c'est Dieu. C'est ainsi. J'aime bien rappeler ça d'entrée de jeu, parce que très vite, la propre justice qui est dans le cœur de l'homme, et par la comparaison avec les autres, peut dire « Ah, celui-là, il lui arrive ça parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela ». Pas si simple. Pas si simple. Donc je voulais déjà rappeler, avant d'attaquer ce sujet, qui est un sujet délicat, le problème de la souffrance, le problème des afflictions, et quand des fois des personnes restent des années sans trouver de consolation, ils peuvent se dire « mais je suis maudit hein ». Donc il faut quand même bien poser ces choses-là avant d'aborder, pour ne pas ajouter à la blessure qui est dans chacune des vies. Il y a des blessures, ne pas ajouter par la prédication de la parole de Dieu et souhaitant apporter de la part de Dieu une consolation, il n'est pas question d'ajouter d'autres blessures. les circonstances générales donc des afflictions qui touchent tous les hommes. J'ai cité évidemment la perte d'un être cher et dans une moindre mesure d'autres pertes, des situations matérielles, professionnelles, relationnelles qui s'effondrent. Nous avions développé les différents points. Lorsqu'il y a une affliction, une souffrance, une perte, un deuil, nous ne passerons pas au travers. À un moment, il nous faudra l'accepter. Alors, les choses se font pas, je ne vais pas vous donner une méthode, mais il est certain, nous avons vu à travers le livre de Job, qui est quand même, par excellence, si j'ose dire, le livre de la souffrance et de la consolation, qui semble tarder, elle arrive pleinement pour Job au chapitre 42, lorsqu'il va capituler, mais j'y reviendrai. Nécessité aussi, dans les situations que nous traversons, d'accepter certaines choses sans avoir tout compris. Alors ça s'oppose violemment à la pensée, notamment à la pensée de l'Occident, qui est une pensée rationaliste, une pensée scientifique. Des choses s'opposent. On veut comprendre, et si on ne comprend pas, la révolte vient et on lève bientôt la main vers Dieu. Je ne vais pas revenir sur tout cela, mais simplement souligner, il y avait un verset aussi du livre de Job qui dit que l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Alors vous allez dire, ce n'est pas très optimiste tout ça, mais je pense que, et j'y reviendrai, il n'y a pas de consolation authentique dans nos vies et de retour à l'équilibre et de réalignement avec la pensée de Dieu si nous ne recevons pas la vérité selon Dieu. Or, la Bible, je le rappelle, n'est pas un livre de choses saintes, pieuses, etc., d'un espèce d'idéal humain. Elle est l'annonce de la vérité, de toute la vérité sur le Dieu créateur et sur l'homme, sur la création, et en particulier l'homme et la femme, les créatures merveilleuses que Dieu a faites, mais aussi la réalité de ce qui s'est passé. La Bible, c'est la vérité dans toutes ses dimensions. Et évidemment, il y a toute une part de la vérité qu'il nous est difficile d'accueillir et qui vient heurter notre être. Alors, je voudrais voir un premier point pour faire la transition entre la souffrance et les afflictions que subissent tout homme et toute femme et celles plus particulières aux croyants nés de nouveau. Premier point, le salut ne garantit pas de vivre ici-bas sans souffrance, disons-le d'entrée de jeu. À ce sujet, il existe une évangélisation à bon marché qui invite à rejoindre une église ou qui annonce Jésus comme une solution presque magique. Nous sommes loin, il faut le dire, à ce moment-là, de la prédication apostolique et du discours de Pierre à la Pentecôte. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et aux interlocuteurs qui étaient touchés par cette prédication et qui disent « Mais que devons-nous faire ?» Paul va répondre quoi ? « Repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Mais repentez-vous. C'est un discours apostolique, un message apostolique, délivré avec puissance par Pierre, et c'est bien celui-là que nous sommes appelés aussi à délivrer, avec sagesse, avec inspiration, guidée par le Seigneur. Mais, dans le fond, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, mais peut-être ce qui nous empêche des fois de délivrer un tel message, c'est « Mais est-ce que je vais être bien reçu ?» Eh bien, pas forcément. Mais Dieu connaît les cœurs et demandons-lui de nous envoyer vers ceux et celles qu'il a élus, prédestinés d'avance. Et donc, cherchons à être guidés par son esprit dans ces choses-là. Mais ce n'est pas mon sujet ce matin, mais quand même, nous avons besoin d'être comme réveillés un peu sur notre appel. La prédication apostolique, ce n'est pas une œuvre de tout repos, hein, c'est un travail que Dieu nous donne. Le salut ne garantit pas de vivre ici-bas sans souffrance. Connaître la vérité qui est en Jésus-Christ, avoir les yeux ouverts sur les réalités spirituelles, nous amène à un choix qui a un coût. Le salut est entièrement gratuit, il a été payé par Dieu, mais une fois que la révélation vient dans nos cœurs, nous sommes positionnés, nous sommes en mesure, cette fois-ci, de choisir. La nouvelle naissance ouvre l'intelligence spirituelle, la parole le dit, je ne vais pas vous citer tous les versets, et l'intelligence tout court. Elle amène à un choix, donc, qui a un coût, je le disais. La nouvelle naissance illumine les yeux de notre cœur. Le psaume 119 nous rappelle que c'est la révélation de ta parole qui éclaire. C'est pas la parole simplement lue et comprise avec notre cerveau, c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Et il est dit, elle donne de l'intelligence au simple. Ce qui n'est pas dit, mais c'est dit par ailleurs, les orgueilleux qui croient tout savoir, eux, par leur raisonnement, sont dans le même temps plongés dans les ténèbres. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, les pécheurs et les affligés. Le croyant né de nouveau va plus ou moins rapidement se trouver dans une situation paradoxale. Je rappelle que le paradoxe, c'est pas une contradiction. Hein, le paradoxe, c'est une espèce de tension qui ne se résoudra qu'une fois au ciel, lorsque nous verrons celui en qui nous avons cru. Cette tension, d'une part, lorsque Dieu se révèle pour la première fois, ça a été dit dans une prière, « Seigneur, je veux me rappeler de la première fois. » Mais aussi lorsqu'il nous accorde des expériences spirituelles fortes, Paul en a connu, et je crois, nous sommes, je le souhaite des fois pour ma vie aussi, nous avons besoin de vivre des expériences, nous avons le salut par la foi, mais le Seigneur nous donne de vivre des expériences spirituelles bonnes qui nous manifestent combien il nous aime, combien sa patience, Anne dans sa prière l'a parfaitement bien exprimé, des expériences où nous connaissons une paix, une joie, une profonde consolation dont nous savons par une attestation intérieure qu'elle vient de Dieu et touche notre être tout entier. Ça, nous avons cela d'une part, mais dans le même temps, cette illumination, ce réveil intérieur nous pousse à la partager à ceux qui nous entourent, un sentiment d'urgence à le faire et bientôt une souffrance. Lorsque nous constatons que cette bonne nouvelle que nous avons reçue, qui a changé notre vie, elle n'est pas forcément reçue, et ce qui est maintenant pour nous une évidence, n'est pas reçu. Voire, on peut être nous-mêmes rejetés. Et là, il y a un enjeu parce que, qu'allons-nous faire alors? C'est là une affliction profonde, notamment s'agissant de nos proches, comme je l'ai souligné la fois précédente. C'est avec ce sujet, je faisais la transition entre les croyants, les non-croyants et les croyants. Ce témoignage à quel nous sommes poussés lorsque nous sommes visités par Dieu, lorsque nous naissons de nouveau. Et ça, c'est un des signes aussi de la nouvelle naissance. C'est que, du coup, cette bonne nouvelle, nous avons envie de la partager et nous la partageons. Alors certains diront à tort et à travers, mais je crois que la semence, c'est le propre, on le voit dans la création de Dieu, la semence, elle est abondante. Dieu, il sème avec abondance. Tout ne lève pas. Hein ? On a des années sèches en ce moment, on voit les chênes qui produisent des glands avec une quantité. Heureusement d'ailleurs, tout ne lève pas. Sur la parole de Dieu, on aimerait bien que tout lève, mais tout ne lève pas. C'est ainsi. La semence est semée et une partie de la semence simplement lèvera, tombera dans un cœur bien disposé, portera du fruit avec abondance plus ou moins. Donc, premier temps, nous sommes nés de nouveau. Il y a un zèle pour partager et bientôt, une souffrance va venir en même temps que la joie du salut. Je l'ai souligné parce que c'est vrai notamment, je le redis, pour les bien-aimés, nos proches, c'est vraiment une souffrance. D'ailleurs, j'interrogeais, est-ce une souffrance pour beaucoup? Est-ce que les choses, nous ne sommes pas devenus tièdes? Puis on s'est dit, bon finalement, peut-être c'est comme ça. Est-ce qu'on n'a pas abandonné la partie? Je voudrais en profiter ce matin pour dire n'abandonnons pas la partie, ni pour nos bien-aimés, ni pour ceux que nous rencontrons. Acceptons cette souffrance dont nous verrons quelle consolation nous donne le Seigneur pour supporter, pour vivre, pour dépasser et pas pour nous arrêter devant cette souffrance. Ensuite, dans la marche chrétienne, je verrai plusieurs types d'afflictions. Il y a des afflictions qui sont liées à notre passé, avant d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des afflictions depuis que nous avons rencontré le Seigneur. Eh bien, nous avons continué, dans certaines situations, à faire des mauvais choix. Et oui, peut-être pour certains, je vous l'apprends, vous pensiez que depuis que vous avez connu le Seigneur, tout est parfait, etc. Eh bien, non. Eh bien non, en tout cas, pour ma part, ça fait 16 ans que je connais le Seigneur, il m'a montré que depuis, j'ai encore fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix vont encore avoir des conséquences, frères et sœurs. Mais je veux qu'on en parle ce matin, parce que ça arrive. Et puis, il y a une troisième, je ne suis pas exhaustif, mais il y a une troisième catégorie de souffrances qui vont venir pour le croyant, c'est la souffrance liée à son témoignage de croyants authentiques qui manifestent les fruits de la nouvelle naissance, qui manifestent le royaume de Dieu. Mais Seigneur, pourtant, je fais ce qui te plaît. Oui, oui, tu fais ce qui me plaît, mais le monde n'aime pas ce qui est de Dieu. Donc, il y aura de la souffrance. Ne soyez pas surpris, nous dit Pierre, de la fournaise. De la fournaise. Alors, évidemment, j'irai assez rapidement sur ces choses-là, les textes, notamment du Nouveau Testament, les lettres, la vie de Paul, par exemple, de Pierre, enfin de tous les apôtres, le montrent avec abondance, abondance, des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, ne sont pas exempts de souffrances, bien au contraire, et des souffrances au-delà de ce qu'on peut imaginer. Les afflictions liées à notre passé, les difficultés que nous avons rencontrées avant de rencontrer Jésus-Christ, ont souvent des conséquences dans notre propre vie et celles de nos proches ou de ceux que nous avons côtoyés, et ces conséquences peuvent perdurer tout un temps. Alors, c'est quoi ? Lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, eh bien, on pilote notre vie à notre façon, avec notre puissance de raisonnement, avec nos traditions religieuses ou spirituelles ou idolâtres. Ça peut être tous les raisonnements dans le pays de Descartes, ça peut être tous les rites animistes, bouddhistes et autres religions de tout poil, avec tout ce qu'il y a, l'idolâtrie, des sacrifices à des dieux qui n'en sont pas, etc. Notre passé, ça peut être tout ce domaine de l'impureté, l'adultère ou la fornication, toutes les pratiques sexuelles que condamne le Seigneur, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour l'être humain, et on peut le constater, lorsque des choses que Dieu a réprouvé, on les a pratiqués parce qu'on était dans l'ignorance. Mais les conséquences sont là. Et je cite cela parce que c'est quand même extrêmement répandu. Ça le sera de plus en plus dans les temps que nous vivons. Tout le problème de l'impureté sexuelle, or l'impureté sexuelle notamment, crée des liens au niveau de l'âme, des liens invisibles mais bien réels, qui peut abîmer des vies, qui peut empêcher aussi à des vies de retrouver une vie de couple, une vie équilibrée, une vie saine. Il y a là des liens importants qui s'en suivent. Ma parole n'est pas du tout accusatrice, elle est explicatrice. Dieu veut que nous connaissions la vérité. Ces choses sont là. L'union sexuelle est voulue par Dieu. C'est une bonne chose. Il invite l'homme et la femme à ne pas se priver l'un de l'autre dans le cadre de l'alliance qu'il a prévue, qui s'appelle le mariage entre un homme et une femme. Il a prévu là un cadre de protection et d'union des corps. Alors, il y a là, dans cette union, la présence de l'Esprit de Dieu. Il y a là pour l'âme un ravissement. En dehors de ce cadre, c'est des liens iniques qui viennent et qui ouvrent des portes à l'adversaire qu'il ne lâchera que lorsque ces choses auront été reconnues devant Dieu, que l'on se sera humilié. Je le redirai, mais l'humiliation, il ne s'agit pas de se courber comme un jonc, de prendre le sac et la cendre, voire de jeûner pour se faire du mal. Et le jeûne a sa place. Il s'agit de demander au Seigneur de venir avec lui tel que l'on est. Dire, Seigneur, voilà les situations. Et dans un esprit de supplication, nous dit la parole, de demander la délivrance. Une fois avoir reconnu ce qui est, ce qui a été ma vie, de le regarder en face. J'avais pas prévu de développer ça, mais frères et sœurs, le sujet est extrêmement sérieux. N'imaginez pas pouvoir avancer dans la vie spirituelle, dans la marche à la suite du Seigneur, sans avoir regardé en face ces sujets, sur la base de la parole de Dieu. Et à ce sujet, les lois vétérotestamentaires données dans l'Ancien Testament sur ce qui concerne la nudité sont toujours valables. L'enfant ne verra pas la nudité de ses parents. Je vous dis des choses, c'est extrêmement pratique, c'est pas mon message, mais si quand même. Parce que ça provoque des afflictions terribles, des déséquilibres dans la vie des enfants. Si nous avons vécu ces choses, mais maintenant la parole nous éclaire. Dire Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Pierre, à ses compatriotes, va dire à plusieurs reprises dans la suite de ses messages apostoliques, vous étiez dans l'ignorance, mais maintenant, vous n'êtes plus. Agissez en conséquence. Je vous cite ça, cette question de la nudité. Celui qui a fait homme avec homme ce que Dieu ne veut pas, qui se repente. Dieu, c'est pas bon pour l'homme. C'est pas bon pour l'homme. Que celui qui est avec des animaux, que celui qui est avec des enfants, que celui qui, etc. C'est une abomination. Il y a des choses sur les sacrifices qui ont été faits. Vraiment quelque chose me touche, le sacrifice à Moloch. Dieu dit, mais j'avais même pas imaginé. Vous feriez des choses pareilles. Offrir en sacrifice à un Dieu. Mais quel Dieu servons-nous si nous offrons en sacrifice nos enfants? Tout un tas de questions douloureuses qui amènent beaucoup d'afflictions dans les vies. Et souvent, on est dans ces afflictions, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Dieu veut nous parler. Il nous parle. Il nous donne sa parole pour nous guider. Le manuel du constructeur, de celui qui nous a créés. Il nous dit, mes enfants, vous étiez dans l'ignorance, mais je veux vous enseigner pour que vous mettiez en pratique, vous soyez libres. Que vous soyez libres. Ces réalités, oui, j'ai vécu ces choses. Elles ont abîmé ma vie, c'est un fait. Mais maintenant, en Jésus-Christ, si j'ai reconnu ces choses et les ai abandonnées, j'ai reçu le pardon. Je suis plus blanc que neige. Venez, plaidons. Si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, je vous rendrai plus blanc que la neige. C'est vrai, frères et sœurs, y compris pour les questions de la sexualité. Dieu peut vous redonner la pureté. Dieu peut vous donner la pureté à nouveau. Satan continuera d'accuser, comme il a accusé le sacrificateur Josué dans le livre de Zacharie. La femme adultère a été accusée, mais elle est repartie libre. Va et ne pêche plus. Elle a abandonné parce qu'elle a trouvé, j'y reviendrai, la vraie consolation. Soyez encouragés, frères et sœurs, à refuser de vous laisser enfoncer par l'adversaire. Et si certains aspects vous tiennent encore, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. C'est-à-dire, approchez-vous de lui. Dites-lui ces choses qu'il sait. Mais il veut que nous le confessions de notre bouche. Comme David. J'ai péché. Contre toi seul, j'ai péché. Je ne cacherai pas mon iniquité. Dites-lui, sans rien en cacher, et suppliez-le de vous délivrer. Je n'ai pas dit, dites-lui ce qu'il doit faire et comment le faire. Mais humilions-nous. Dites-lui, je m'en sors pas, j'ai besoin de toi. Et pour ce qui concerne la conséquence de nos propres péchés, de nos propres errements dans notre vie avant d'avoir connu le Seigneur, car je suis toujours là, et les conséquences dans la vie de nos enfants, de nos proches, parce qu'il y a des conséquences. Oui, cela fait souffrir, nous voudrions tant que ce soit réglé maintenant. et que l'on soit tranquille, mais ce n'est pas le cas. Alors Dieu ne serait-il pas un bon Père? Ne serait-il pas tout-puissant? Si. Si, il est un bon Père, il est tout-puissant. Si, il est toujours tout cela et agit, mais en son temps. Pouvons-nous dire avec Paul? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, par l'affliction, le Seigneur nous transforme. Ah, c'est un sujet délicat, frères et sœurs, parce que j'entends peut-être certains qui disent, mais ça, c'est du masochisme. Il nous fait du bien, du mal pour nous faire du bien. Non ! Mais forcé de reconnaître, c'est en tout cas mon témoignage, et je le sais, de ceux qui vraiment veulent suivre le Seigneur, que l'affliction nous transforme. C'est ainsi. C'est ainsi. Je ne la demande pas, Paul ne la demandait pas, mais il dit, s'il faut que vous souffriez, eh bien acceptez-le. J'espère que je suis bien compris. Je ne veux pas ce matin à des cœurs qui sont déjà abîmés, qui sont dans la souffrance, qui sont peut-être enfermés, qui n'en se sortent pas. Je ne veux pas en rajouter une couche. Je veux m'adresser déjà à ceux qui ont avancé en Christ et qui sont bloqués là dans leur route. Acceptons. Parce que l'affliction produit la persévérance. Ça va m'éviter, par cette persévérance ou la patience, de peut-être dire, Seigneur, ce coup-ci j'en ai marre, et puis d'intervenir, et puis d'empêcher l'action de Dieu dans une vie qui nous est chère, dans un enfant, dans la vie d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, qui s'approche par l'âge de la mort. Et à un moment, on va lui dire ces quatre vérités. Patientez. Patientez, mais aimez. Par l'affliction, il nous transforme. Il renouvelle notre intelligence. Parce que nos systèmes de pensée, ils ont la peau dure. Et il est obligé de chauffer à blanc, comme il a chauffé son peuple. Pour décoller ces systèmes de pensée dont nous sommes prisonniers. Pour décoller de la propre justice, il en faut de l'affliction. Il nous épure. Tenez, ce matin, j'avais mon fils aîné qui m'appelait à 7h30. Et puis on a échangé. Et moi, il y avait dans ma vie, il y a peut-être encore, mais le Seigneur s'en occupe. Peut-être ma vie professionnelle, peut-être ma moulinette qui tournait un peu. Des projets, quoi. On a des projets. Ce chant dit « Délivre-moi de la folie de mes projets ». Mais ça demande du temps. On peut dire « Non, j'en fais plus, puis on en fait encore ». Ça paraît pas mal comme ça. Ça paraît pas mal. Sauf que nos projets, c'est pas forcément ceux de Dieu. Et l'énergie qu'on y passe, c'est peut-être pas exactement ce qu'il voulait. Pourtant, ça paraît pas mal. Je ne suis pas le seul, vous savez. Beaucoup aiment bien s'engager dans des œuvres extérieures à l'église locale. On aime bien aimer ceux qui sont au loin. C'est un peu plus simple que d'aimer ceux qui sont auprès. Mais la question est, Seigneur, quels sont ceux que tu me donnes à aimer? Un petit billet, un petit don? Pour au loin, voire pour un missionnaire qui, lui, a livré sa vie au loin. Et puis ici, des enfants, avec une grosse absence du papa, des Bah, du coup, des mamans qui élèvent souvent seules. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande dans le fond? Oui, par l'affliction, il nous transforme. Et l'affliction produit la persévérance. Pas la persévérance dans de mauvaises façons de faire. Hein. C'est pas le but. Et des fois, il y a des souffrances qui durent longtemps parce qu'on ne lâche pas. On ne lâche pas. Ça, c'est les conséquences de notre vie passée. Je voulais dire, parce que des fois, il y a un découragement qui vient. Mais Seigneur, je t'ai donné ma vie, tu m'as pardonné. Mais oui ! Mais, et alléluia ! Alléluia, je suis pardonné. Je suis pardonné, et ça, c'est déjà une sacrée libération. Et il y a des choses qui continuent de courir. Si j'aborde ça ce matin, c'est pour précisément, on ne se décourage pas. Parce que quand on sait ce qui se passe, c'est quand même un peu... plus simple de supporter. Il nous a promis que ce qu'il a commencé en nous, il conduira à la perfection. Est-ce qu'il tient ses promesses ou non? Ok, alors, si la promesse tarde, attends-la. Mais ce n'est pas une espèce de phrase vague. On sait qu'on va l'attendre jusqu'à son retour, jusqu'à ce que notre vie ici se termine. Oh, tu vas me dire, mais c'est pas sympa ton truc, Robert, j'aurai donc pas de bonheur ici. Mais si, mais avec des tribulations. Et après? Donc il faut qu'on connaisse bien nos étapes un peu, sinon on va se décourager. Parce que notre chair, elle voudrait bien retrouver le bonheur complet ici. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Alors nos mauvais choix, nos mauvaises décisions, nos attitudes depuis que nous le connaissons, ne pas développer, elles peuvent être de même nature pour bien souvent. C'est le combat de la chair et de l'esprit, là. C'est clair. Dans bien des situations, est-ce qu'on se laisse guider par le Seigneur dans une obéissance simple? On demande souvent sa puissance, etc. La puissance, elle vient quand nous aussi, on ouvre les clés. Il donne son Esprit Saint, ne refuse pas le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Donc, la clé, il y a une clé de l'obéissance des fois dans des choses qui semblent minuscules dans nos vies, qui ouvrent des torrents, les torrents de Dieu, quoi. Inévitablement, je crois que les uns et les autres sont passés. Il y a l'orgueil spirituel qui peut venir, parce que, comme je l'ai dit, la nouvelle naissance ouvre l'intelligence spirituelle et l'intelligence tout court. C'est indéniable. Et du coup, quand on oublie qui a fait cette œuvre, rapidement, on peut redresser le col. Ça peut amener des réponses dures, des versets assénés. Ça peut amener l'idolâtrie envers les serviteurs de Dieu. Les locaux, ça risque pas trop, mais le grand orateur international, bientôt, il y a le... Où sont les vedettes, ça peut conduire à des mauvais choix de vie. Ce que je voudrais simplement dire ce matin sur les mauvais choix de vie, d'orientation, j'ai mal compris mon appel, j'ai fait des décisions qui peuvent être lourdes dans ma vie, je voudrais dire une chose. Même là, le Seigneur ne nous abandonne pas. Il va nous enseigner, ça va être un peu douloureux, ça peut être un peu long, mais même là, il ne nous délaisse pas. Si certains se trouvent là-dedans, c'est pas fini pour toi. J'ai mis dans cette méditation pour le mois d'août, il y a de l'espérance pour ton avenir. Là aussi, c'est pas une phrase toute faite, c'est une parole de Dieu. Si tu as fait des mauvais choix, même un seul, mais des fois on en fait plusieurs à suivre, c'est pas fini pour toi. La troisième source d'affliction, c'est notre témoignage. Je voudrais simplement lire dans 2 Timothée 3, verset 10, Paul à Timothée. Pour toi, 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Ô Seigneur, donne-nous, pour certains, d'avoir des modèles, des aînés, pour d'autres, de l'être. Ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seraient peut-être persécutés. Non, seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Frères et sœurs, vous allez dire, mais on n'est pas persécuté ici. Deux niveaux de réponse. Premièrement, si. Un croyant authentique, né de nouveau, qui manifeste les fruits de l'esprit et qui manifeste les œuvres du royaume, je peux vous dire, il est persécuté. Aujourd'hui, ici, en France, dans son boulot, parce qu'il va déjà être moqué, etc. Il n'y a pas besoin d'être crucifié pour être persécuté, ça commence là. Si on est authentique, nécessairement, on sera persécuté. On sera moqué. On sera peut-être mis à l'écart, rejeté. On connaîtra une certaine forme d'isolement par rapport au monde. Le problème, c'est que cette peur-là, parfois, amène à des compromis. Il y a comme un espèce de vase communicant. S'il n'y a pas une vie du corps, c'est dans le corps de Christ, avec des frères et sœurs qui sont en chemin, bien imparfaits. Et c'est tout un problème, parce que comme on a l'Esprit de Dieu aussi, notre regard est aiguisé sur tout le chemin que mon frère ou ma sœur a encore à faire. Et je serais assez prêt à lui donner un plan de progrès. Sauf que le Seigneur me dit, c'est là, dans l'Église, que tu vas trouver ta force, ta consolation, parce que c'est le lieu où tu vas pouvoir marcher à la lumière. Autre sujet. Où en est-on ? Alors, comme il y a des difficultés, je peux entendre, dans le fond on voit des trucs, mais je l'ai dit moi-même, on voit des fois des trucs dans l'Église qu'on voit même pas dans le monde. Alors c'est pas juste ça. Parce que dans le monde tout est caché. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, il y a des choses qui finissent par venir à la lumière. Donc le scandale éclate. Dans le monde, il éclate, mais on affirme droit dans les yeux que ça n'est pas. Et plus on a de puissance, plus on peut tenir longtemps sur ce chemin-là. Mais un jour ou l'autre, quand même, ça finit par éclater. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Nous sommes invités à la marche à la lumière, parce que si nous marchons à la lumière, alors nous allons pouvoir trouver au sein du corps de Christ les forces, la consolation, la possibilité de confesser notre péché les uns aux autres et d'être guéris, restaurés. Mais si nous perdons ça de vue, parce qu'il y a eu des difficultés, nous allons finir par dire, mais dans le fond, dans le monde, c'est un peu plus confortable, je peux me faufiler. Et vous voyez, là, il y a quelque chose qui se met à basculer. C'est très pervers, cette histoire-là, et le refroidissement vient. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Ben, on relativise la parole de Dieu. Je dis, bon, est-ce qu'ils sont pas un peu intégristes, quand même ? Le Seigneur est bon ! Il est bonbon ! Et puis voilà, c'est des glissements. C'est des glissements. Paul est clair avec Timothée. Il lui dit pas, Timothée, ben pour toi, oh, t'es gentil, puis moi, tu es mon disciple. Bon, moi j'ai souffert, mais toi ça va aller, tu vas voir, ça va s'améliorer. Non, il lui dit les choses. Mais il peut lui dire, c'est vrai, quelle autorité, parce qu'il y a un exemple. C'est son exemple qui fait autorité, c'est pas... Je ne sais quel pouvoir. Mais 1 Pierre nous dit aussi, 1 Pierre 3, verset 13, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu. Ne choisissons pas nous-mêmes nos épreuves. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, plutôt qu'en faisant le mal. Voilà donc toutes les afflictions qui peuvent survenir d'une manière tout à fait normale, si j'ose dire, dans la vie d'un chrétien né de nouveau et qui cherche à avancer. Conséquence de sa vie passée, conséquence de ses mauvais choix depuis qu'il a connu le Seigneur et conséquence d'un témoignage de qualité au milieu de ce monde. Donc rien de surprenant, ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise. Alors, face à ces afflictions, Paul, le Seigneur, à travers la bouche de Paul dans 1 Corinthiens, donc 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7, nous dit qu'il nous consolera de toutes nos afflictions. Il y a, il faut bien le dire aussi, quelques fausses consolations qui peuvent se présenter et que nous pouvons saisir. Parce que notre besoin d'être aimé est reconnu à tout prix, peut être encore puissant. Si nous n'avons pas encore goûté combien le Seigneur est bon, nous pouvons encore chercher dans nos vieilles sources, dans nos vieilles solutions, la consolation. L'homme a fait ça avec Babel, après le déluge. Faisons-nous un nom ? Ah, c'est le grand sujet quand même. On a parlé de l'identité. Faisons-nous un nom, alors on peut faire Babel. Il nous est largement proposé. Et cette soif de reconnaissance, c'est vraiment le lot de la nature adamique. Proverbe 30, versets 15 et 16, dit ceci. « La sangsue a deux filles. Donne, donne !» Trois choses sont insatiables, quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Je vais prendre un exemple pour une femme, un exemple pour un homme. Une femme qui, pour garder un homme, va lui, entre guillemets, donner un enfant, espérant que l'homme va ainsi s'attacher à elle. Combien de grammes de déchirure dans des vies avec cette histoire. Un homme qui va rechercher au moins en partie l'affection d'une mère à travers une épouse, vous savez, ce n'est pas nouveau. C'est arrivé à Isaac. Genèse 24, verset 67. Isaac conduit Rebecca dans le tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa mère. Une épouse, c'est pas fait pour ça. Mais bon, la parole de Dieu nous dit des choses qui peuvent nous éclairer sur nos vies. Il y a une espérance pour ton avenir, même si tu as connu ça. C'est un réparateur, notre Dieu. Dans ce même registre, qui est un piège redoutable, de chercher à être rempli par l'autre, quoi, finalement. Ça révèle la hantise de la solitude. Et il y a énormément de solitude aujourd'hui, qu'il faut combler à tout prix. Il y a de cela dans l'explosion des réseaux sociaux, qui vous annoncent que vous avez des amis. Et combien de situations tournent à la catastrophe. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, Mais je sais que c'est l'angoisse de beaucoup de parents qui voient leurs jeunes enfants parce qu'on n'a pas le temps, parce que ceci, parce que cela, parce que tout un tas de raisons. Et on va trouver les faiseurs d'opinion, je ne sais plus comment ça s'appelle, les influenceurs d'images, ou des jeunes préadolescents vont chercher à s'identifier par la tenue, etc. Mais c'est terrible parce que derrière ça, c'est l'identité. Les fausses consolations, c'est quand on court ayant été déçus entre ce à quoi on aspirait et ce qui est. Je crois que ça nous est tous arrivé. On avait des projets, un idéal, et puis les choses s'effondrent. Est-ce qu'on va aller vers une autre vision idéale de je ne sais quoi, ou est-ce qu'on va enfin revenir à notre Dieu? Les fausses consolations, c'est le repli dans sa souffrance, dans une attitude finalement orgueilleuse. Parce qu'avouer qu'on souffre, c'est dire quelque part je suis faible et je suis vulnérable, j'y reviendrai. Et ça conduit à l'endurcissement. Enfin, la révolte, la rébellion, en guise de consolation, on fait mieux. Et pourtant, l'histoire du peuple hébreu est remplie de cela. Et le cœur de Dieu souffre. Je n'ai pas le temps, mais je vous invite à lire dans Ésaïe 57, les versets 15 à 21. Alors, pour recevoir la vraie consolation, notre part, premièrement, reconnaître la plaie de son cœur. Je insiste là-dessus, à Roi 8, verset 38. Reconnaître une souffrance ne signifie pas s'y complaire, il y a un équilibre. Entre tout balancer et dire c'est comme si ça n'avait pas existé, c'est-à-dire nier sa souffrance, c'est l'enfouir, se mentir à soi-même et s'exposer à de terribles explosions de colère plus tard. Dans le deuil, la révolte contre Dieu n'est souvent pas loin. Donc il faut reconnaître la plaie de son cœur. L'exposer à Dieu et parfois en faire part à un frère, une sœur, mature dans le Seigneur. Oui, c'est se rendre vulnérable. C'est se rendre vulnérable. Et peut-être que dans ces temps-là, les cocoricos et les alléluia diminuent. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Accepter d'être fragile aux yeux des hommes, mais entièrement vrai avec son Dieu. Frères et sœurs, si ce n'est pas dans l'Église de Jésus-Christ que ces choses se passent, je ne vois pas où elles peuvent se produire. Quand je dis l'Église de Jésus-Christ, je ne dis pas cette salle, etc., mais je dis ceux et celles-là qui ici sont nés de nouveau, ont reconnu. Si on a reconnu qu'on était perdu devant Dieu, mais qu'est-ce qu'on a comme risque supplémentaire maintenant, à dire qu'on a souffert, à dire qu'on s'est révolté même devant une injustice réelle. Deutéronome 6, versets 6 à 9, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples. Ce n'est pas parce que vous êtes d'une assemblée de 200, de 300, de 400, de 5000 personnes. Là n'est pas le sujet. Que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Pas par vos forces, pas par vos mérites, pas par vos bonnes œuvres, pas par votre propre justice, pas parce que vous êtes plus intelligent que les autres, il vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Notre part encore, lâcher son mal. Nous chantons souvent, c'est un beau chant. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je ne veux pas développer, mais est-ce qu'on peut penser un instant aux 3 heures où les ténèbres sont venues sur ce monde pendant que Jésus était à la croix? Lui, frères et sœurs, a connu l'abandon. C'est quelque chose qu'on saisit mal. Père, non pas Père, mon Dieu, dit-il, celui qui toute sa vie a dit mon Père, à cet instant il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a, lui, vécu cet abandon pour que nous ne le vivions pas. frères et sœurs, quand nous nous sentons abandonnés à ce point, quand l'angoisse nous saisit. Je crois que le Seigneur veut nous donner la force de dire non, Seigneur. C'est Jésus, tu as abandonné un temps à la croix. Alors qu'il était dans ta volonté, il était à l'aplomb de ta volonté, mais tu l'as abandonné. Pour que moi, je ne sois pas abandonné. Qu'aucun ici ne se sente en cet instant abandonné. Le Seigneur Jésus-Christ a été abandonné par son Père un instant. Mais là, il est à la droite du Père. Il est notre avocat, je veux en parler, il est le paraclet. Il est notre solution. Lâcher son mal. Affirmer, rappeler la bonté, la justice, la souveraineté de Dieu. Je ne vous donne pas les références. Et enfin, et encore, s'il y a la révolte. Frères et sœurs, la révolte. Je ne parle pas... Alors je sais, la colère, des fois, elle peut être bonne. Elle peut être juste. Enfin, ça ne doit pas durer très longtemps. Puisque avant le coucher du soleil, ça doit être réglé. Donc la révolte, souvent ça dure plus longtemps que ça. Frères et sœurs, on ne peut pas rigoler avec ça. Si la révolte dans notre cœur, quand on la voit se lever, on n'a qu'une chose à faire, c'est s'humilier devant le Seigneur. Alors la véritable consolation, Jésus, le consolateur, la parole incarnée, la femme samaritaine, Jésus par une seule parole, va toucher le cœur de cette femme qui cherchait la consolation auprès des hommes. Jésus. Le paralytique depuis 38 ans, veux-tu être guéri ? La résignation, le doute avait saisi cet homme depuis 38 ans. Jésus touche au cœur. Résurrection de Lazare, consolation par un apport de vie éternelle, par l'espérance, cette assurance de notre destinée. Considérons le chemin de Marthe dans cette histoire. Reproche à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En même temps, se tourne vers Jésus, reçoit la parole de Jésus. Réponds à cette parole en confessant sa foi. Je sais que tu le réciteras au dernier jour. De nouveau saisi par la terrible réalité et se laisse réinterpeller par le Seigneur. J'aime beaucoup cette histoire de Marthe. On la voit dans son service et souvent prêchée. Mais regardez cette femme. Elle a été pleinement consolée. Le paraclet, l'autre consolateur, non qu'il soit moindre, mais c'est celui que le Seigneur nous donne. C'est celui dont nous disposons, parce que lui n'est plus là, parce qu'il est au ciel auprès du Père. Mais il a donné le Consolateur. On peut relire dans Jean 16. « Maintenant je m'en vais, dit Jésus, vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » On voudrait que Jésus il soit là des fois, là physiquement. Il est là par son esprit. Nous avons, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, moi Jésus. Montez dans la gloire du Père, je vous l'enverrai, il l'a répandu, nous le savons. Nous avons ce privilège, frères et sœurs, de savoir ces choses. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Cela est fait dans la vie de beaucoup ici, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Le jugement n'est pas encore entièrement exécuté, mais nous savons qu'il le sera, frères et sœurs. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, frères et sœurs, le Consolateur est venu pour nous. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La consolation, elle est la vérité et la vraie consolation dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'une dose d'apitoiement, nous avons besoin d'une dose massive, d'une injection massive de vérité dans nos vies. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est venu il nous a convaincus de péché, de justice, de jugement. Ainsi, il nous a consolés. Ainsi, il nous a annoncé les choses à venir, qui déjà avaient été annoncées par les prophètes. Il nous les confirme. Et là est la consolation. C'est notre espérance. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il revient en gloire. Nous le verrons face à face. Pour l'instant, nous avons cette tension. Pour l'instant, nous avons un peu ce paradoxe à gérer. Mais notre consolation, c'est que nous le servirons. Ses serviteurs le serviront. Ceux qui auront commencé ici-bas, avec nos luttes, avec nos insuffisances, avec nos échecs, avec les retours de notre vieille nature, confessés, avec nos humiliations, mais nous commençons à le servir, frères et sœurs. Alors nous serons prêts et nous pourrons dire, oui, ses serviteurs le serviront dans la cité céleste, qui est notre espérance. Troisième consolateur, mais qui va avec les autres. La parole de Dieu à travers les Écritures, Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne une consolation qui n'est pas une consolation, une caresse dans le dos comme ça. Il nous donne quelque chose de solide, de puissant, de fondé, qui dure, qui donne une stabilité. Parce qu'elle nous dit la vérité tout entière sur l'homme. Ce qui s'est passé, l'intervention de Dieu pour restaurer l'espérance pour ceux qui se confient dans l'œuvre que Christ a accomplie. Voilà pourquoi les consolations, la parole de Dieu. Parce qu'elle n'explique pas simplement ce qui s'est passé et ce que Dieu a fait, mais qu'elle montre le chemin, ce qu'il convient de faire, la voie à suivre. Parce qu'enfin, elle nous révèle le don de la vie de résurrection en Jésus-Christ qui permet de demeurer dans cette vérité sur ce chemin. Elle nous humilie lorsqu'elle révèle les motivations de notre cœur qui nous ont conduits dans des impasses. Mais si nous acceptons cette humiliation, je vous renvoie au psaume 119, les versets 65 à 77. C'est vraiment à 4-5 reprises, il m'est bon d'être humilié afin que je connaisse tes statuts. Avant d'être humilié, je m'égarais. La consolation ne consiste pas à un apitoiement qui fait du bien à celui qui s'apitoie, mais à l'acceptation de la vérité présentée par le Dieu d'amour et qui va nous sortir de nous-mêmes, ouvrir nos cœurs aux frères et sœurs, présenter notre parcours comme celui de Job. Je voudrais le rappeler, je ne vais pas m'étendre là. Mais souvenons-nous de toutes ces étapes de Job. L'affliction, le découragement, la dépression, la révolte, les consolateurs fâchés, les tentatives pour se justifier lui-même, pour finir après une mise au point par l'Éternel, par lâcher prise et reconnaître qu'il avait entendu parler de Dieu. Mais qu'au terme de toutes ces épreuves, son œil le voit et la bénédiction est revenue au double. Je terminerai par ce verset dans 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, toujours reliée, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre cœur a besoin d'être consolé en vérité. Seigneur, je te prie pour nous tous qui sommes ici, frères et sœurs en Jésus-Christ, Seigneur, que nous acceptions la consolation de ta part et Seigneur, que nous acceptions aussi, comme tu as consolé Paul par la venue de Tite et par le soutien fidèle de ceux qui ne l'ont pas abandonné, Seigneur, au milieu de toutes ces afflictions. Père, donne-nous d'accepter la consolation que représentent des frères et sœurs, des aînés dans la foi, des fidèles, qui ne sont pas exempts d'afflictions, Seigneur, mais se confient en toi. Seigneur, tu nous as donné une bonne espérance. Nous voulons qu'elle soit ce matin encore affermie. Nous voulons davantage la connaître, Seigneur. Pour ne pas osciller, Seigneur, à tout vent de doctrine, ne pas aller rechercher de fausses consolations dans ce monde, Seigneur, qui nous a tant fait souffrir. Mais la trouver, la recevoir de toi pour être stable, Seigneur, et tenir jusqu'au bout. Je te loue, je te bénis, Seigneur. Amen.